winds 100 points out to the west.
Radio X-Files avec Christian Page et Camille.
Oh my gosh, dude.
Radio X.
Au risque de me répéter, je vous dirais que j'adore les jeudis. Ce sont mes soirées préférées à Radio X-Files. En plus de la température et de la noirceur qui commence à vouloir se pointer déjà le bout du nez, c'est un temps pour commencer à savourer des pumpkin spice latte parce que l'automne s'en vient tranquillement pas vite. 1er septembre, bienvenue sur les ondes de choix 98.1 Radio X. On se met dans l'ambiance. Notre thématique du jeudi, ce sont les crimes. Et Christian Page, bonsoir.
Bonsoir, Camille.
Tu m'as fourni un extrait. Je peux jouer tout de suite pour qu'on se mette dans l'ambiance du sujet de la soirée?
Allons-y, même si ce n'est pas, je l'avoue, même si ce n'est pas dans ma palette. Mais on y va.
Allons-y. J'aime ça! C'est qui, ça? Church of Misery!
Oui, le groupe s'appelle Church of Misery. C'est un groupe japonais qui fait dans le métal. Et le petit bout qu'on vient d'entendre, c'est une pièce qui s'intitule Blood Sucking Freak. Et c'est une pièce qui tourne autour du personnage de Richard Trenton Chase. Et ce sera donc notre sujet de ce soir, Richard Trenton Chase, qu'on a surnommé le vampire de Sacramento. Et écoute, avant d'entrer dans cette histoire-là, je dois t'avouer que quand je fais mes séries, quand j'ai fait les séries à Canal D, Les Enfants Tueurs et Les Tueurs de l'Occulte, dans le cas des Tueurs de l'Occulte, j'ai également fait un livre et j'ai fait une série de conférences. Et quand on fait des séries comme celle-là, des séries judiciaires, puis je pense que s'il y a des gens qui nous écoutent, qui travaillent dans le milieu de la télévision et qui ont fait des documentaires sur des séries de criminels, tout ça, on doit quelque part s'auto-censurer. C'est-à-dire que moi, j'ai eu accès à des images, des photographies, des bouts de films qui ont été tournés sur les scènes de crime, les photos des autopsies, les photos des victimes, les photos des scènes de crime. Et donc, éventuellement, on doit faire une sélection là-dedans de ce qui sera montré à la télé et de ce qui ne sera pas montré.
En tout cas, d'ailleurs, Christian, j'ai mis le nom de Richard Trenton Chase, oui, sur Google, et on voit, sans savoir l'histoire, sans la connaître, ce que font, oui, les ravages de la drogue.
Je sens
qu'il y en a un petit peu là-dedans.
Oui. Richard Chase était un grand consommateur.
Ah, okay.
Et je dois t'avouer que quand je te dis qu'on fait cette auto-censure, je te raconterai, j'ai une petite... pas une prise de bec, mais quand même un différend avec le docteur Mailloux à ce sujet-là. On était tous les deux invités dans une présentation pour les étudiants en journalisme de l'Université de Trois-Rivières. Et donc là, il y avait le doc Mailloux qui était là. Moi, j'étais là comme journaliste, puis bon, j'expliquais un peu ma carrière, puis tout ça. Puis là, j'expliquais un peu les séries, l'autocensure qu'on doit faire. Et là, le doc Mailloux était pas d'accord. T'sais, lui, il dit, non, il dit, si t'as les images des scènes de crime, faut que tu les montres. Mais moi, j'ai toujours été très réticent à ça parce que je pense que par décence, on peut pas faire ça. T'sais, supposons que, si je prends par exemple des sujets encore plus sensibles, comme les enfants tueurs, t'sais, si t'es le parent, ces enfants-là qui ont été tués, ils ont des parents, tu sais. Et tu sais, as-tu envie de voir, t'es un samedi soir, t'es devant ton téléviseur, puis là, tu vois un documentaire où tu vois ton petit prout qui a été coupé en morceaux, tu sais, t'as pas envie de voir ça. T'sais, souvent, même les parents refusent, on leur montre même pas les scènes de crime. T'sais, les parents, on lui dit, bon, votre enfant a été trouvé, on lui donne un minimum d'informations pour qu'il sache comment le crime a été commis, mais on évite de, on n'a pas besoin d'entrer dans les détails, tu sais, bon, votre enfant a été torturé, on y a rentré des aiguilles en dessous des ongles, on n'a pas besoin d'aller jusque-là.
Non, c'est ça, il y a eu longtemps un profit, puis on a fait beaucoup d'argent, puis de copies avec des photos, je pense au Halo Police, parce que c'est comme celui qui me vient en tête en premier, mais c'est plus coutume, là, d'avoir absolument la photo du corps, quoique quand on a des grands dirigeants en Orient ou de groupes djihadistes qui sont tués, on veut avoir la photo comme en preuve, comme trophée, mais c'est plus ça. On est un peu plus pudique là-dessus et on respecte un peu plus les familles.
Là. Et moi, ce que je disais aux étudiants, c'est que bien souvent, ce genre d'image ne sert qu'à faire un voyeurisme malsain. Si on veut voir la scène de crime, il y a une espèce de voyeurisme malsain là-dedans. Donc, j'évitais de faire ça à la télé, mais là, le Doc Mailloux, lui, je dois t'avouer qu'il n'était pas du tout d'accord.
On a
eu une prise, pas une prise de bec, mais vraiment un échange musclé autour de ça, parce qu'on partageait pas du tout la même conviction par rapport à le fait d'exhiber des images comme celle-là.
OK.
Ce qui m'amène à Richard Trenton Chase, ce que je voulais en dire, c'est que après, quand j'ai fait mon livre Les tueurs de l'occulte, ça a été suivi d'une série de conférences à travers le Québec. Et je te dirais qu'il y a deux crimes que j'évoquais dans mes conférences où invariablement les gens détournaient les regards. Hein, parce que ces deux crimes-là étaient celui des éventreurs de Chicago, dont on parlera plus tard, plus loin dans la saison, et il y avait les crimes de Richard Chase. Et comme j'avais, dans le cas d'une conférence, évidemment, j'ai les photos des scènes de crime, j'ai les photos des victimes. D'ailleurs, même pour préparer cette émission-là, ce soir, j'ai montré une des... Hier, j'étais en train de travailler là-dessus, puis j'ai montré une des photos de la scène de crime à ma compagne, puis elle a détourné le regard. Elle a dit, mon Dieu, que c'est épouvantable. T'sais. Et les gens font exactement la même chose en conférence quand ils voient là sur un écran de je sais pas moi, 8-9 mètres de large, là, ils voient en gros là la scène de crime, crois-moi qu'il y en a plusieurs qui détournent le regard.
Avec raison, tu l'as imposé pas mal.
Oui, et c'est assez monstrueux. Et dans le cas des crimes de Richard Chase, c'est parmi les plus monstrueux sur lesquels j'ai eu à me pencher. Et tu vas comprendre un peu la notion du vampire, la notion du surnaturel qui intervient ici. Même si Richard Chase, tu dis, il a visiblement eu des abus de drogue, oui. Mais le bonhomme en question aussi avait des problèmes psychologiques et psychiatriques très importants. Ça n'a pas empêché son procès, parce que même s'il avait été déclaré schizophrène, le procureur a été en mesure de démontrer que le type savait très bien ce qu'il faisait, il était conscient qu'il commettait des crimes, et il faut toujours se rappeler que dans le cas de la maladie mentale, devant un tribunal, il faut démontrer que cette maladie a empêché le criminel de porter un jugement sur ses actions.
Oui.
Dans le cas de Richard Chase, comme tu vas le voir, ses troubles mentaux ne l'ont pas disculpé des actions qu'il commettait. Il était parfaitement conscient qu'il commettait des crimes et il a agi en fonction de dissimuler justement ses crimes aux autorités. Donc, les crimes de Richard Chase, ce sont des crimes que la presse avait surnommé le vampire de Sacramento. Et faut bien l'avouer, ce sont des crimes qui, même s'ils remontent à plusieurs années, hein, on parle ici, on est à la fin des années 70, ce sont des crimes qui, encore aujourd'hui, quand on va à Sacramento et on parle des gens qui s'intéressent un peu à l'actualité judiciaire, ce sont des crimes qu'on nous rappelle. Ça veut dire, ah ouais, ici, on a eu Richard Chase, le vampire de Sacramento. Ce sont des crimes qui ont marqué l'imaginaire, un peu comme les crimes de Manson dont on a parlé il y a quelques semaines, les crimes de Jack l'Éventreur, les crimes de Ted Bundy. Même si les années ont passé, les décennies ont passé, ce sont des crimes qui ont marqué tellement l'imaginaire qu'ils ne s'effacent pas. Donc, on va y aller tout de suite sur notre sujet de ce soir. Je le dis pour des gens qui nous écoutent, il y aura des descriptions des scènes de crime, il y aura des descriptions des crimes qui sont assez choquantes.
C'est pas l'heure de souper.
C'est pas, ouais. Et si c'est des trucs qui vous dérangent, je vous le dis tout de suite, peut-être syntoniser une autre chaîne où on joue de la musique classique. Tu comprends? Parce
oui,
que
oui.
C'est, tu vas voir que c'est assez cru au niveau des crimes. Parlons d'abord de notre bonhomme, hein, qui est ce Richard Trenton Chase. Hein. Il naît le 23 mai 1950. Il grandit dans une famille qui est tout à fait ordinaire. On a un père qui est un peu... qui a une droiture, qui est un peu autoritaire. Mais comme c'était très souvent le cas dans les années 50, dans les années 60, donc Richard Chase va grandir dans cet environnement-là. Ses parents, sa mère est institutrice, son père s'occupe d'informatique et de renseignement, de compilation de données. Rien ne permet de croire à ce moment-là, tu sais, parce que très souvent, quand on parle des tueurs en série, on a l'impression de dire, ah oui, mais il a grandi, il a été abusé par son père, abusé par sa mère, bon, un milieu où l'enfant va évoluer qui est tout à fait sordide, ce qui n'est pas le cas avec Richard Chase, hein. Il grandit donc dans une famille moyenne américaine, comme on en a plein dans les années 50 et 60. Il a une sœur et il ne présente pas de comportement particulier dans sa petite enfance. À l'école, c'est quand même un élève médiocre, tant au primaire qu'au secondaire. C'est pas un idiot, mais il a la tête ailleurs et il a de la difficulté d'apprentissage. À l'adolescence, et là tu as raison, à l'adolescence, il va découvrir l'alcool, le cannabis, le LSD, et là, il va également découvrir les femmes. Hein, il y a une attirance pour les femmes, bien sûr, mais il va découvrir que pour une raison qu'il n'arrive pas à expliquer, lorsqu'arrive le moment de l'action, il n'a pas d'érection.
Ah.
Et ça le trouble beaucoup. Il se confie à des amis. Quand arrive le moment de conclure, ça marche pas. Donc, il reprend plus de drogue, plus de cannabis, plus d'alcool, ce qui, forcément, n'aide pas nécessairement à ses problèmes de dysfonction érectile. À 20 ans, il devient de plus en plus erratique. Même autour de ses amis, par exemple, il va emménager avec un groupe d'amis, une espèce de commune, et il a tendance, par exemple, à déambuler dans l'appartement complètement nu, même s'il y a des invités. Sa chambre est un véritable capharnaüm. C'est un individu qui n'est pas propre dans son environnement, qui n'est pas propre non plus de sa personne. Il commence à parler tout seul. Il est obsédé par sa santé. En fait, même, à un moment donné, il croit qu'il y a des carences en vitamine C. Fait que quand il se couche, il met des oranges autour de sa tête parce qu'il est convaincu que la vitamine C, durant la nuit, va transiter des oranges à son corps.
Ouais, c'est pas évident, l'acide, hein?
il en faisait du bon dans ce temps-là.
Ouais, ouais, hein? C'était les années fortes.
Ouais, quand il visite ses parents, hein, bon, parce que bon, à un moment donné, ses parents vont se séparer, divorcer, vont ensuite se remettre ensemble. Mais bref, ou à ce moment-là, on retrouve notre Richard Chase. Il est adolescent. Lorsqu'il est à la maison, il a un langage ordurier, souvent très insultant, à la fois lorsqu'il parle à sa mère ou lorsqu'il parle à sa sœur. Il a de la difficulté à socialiser. Et après le divorce de ses parents, comme je t'ai dit, en 1972, ses parents vont se séparer. Et là, il va vivre de temps en temps chez son père, de temps en temps chez sa mère, de temps en temps chez un oncle. Mais durant ces périodes-là, même s'il fait un peu des allers-retours entre ces différents lieux d'habitation, il n'y a pas de trace d'abus ou de quoi que ce soit. Richard Chase, même si... il est un peu renfermé, introverti, il n'y a pas de comportement qui semble lié à des abus, quels qu'ils soient. Il devient violent, hein? Comme je l'ai dit, il parle à sa mère, à sa sœur, en utilisant un langage ordurier. Il va même, à des moments donnés, là, à des gestes physiques, là, à pousser sa mère, à serrer les bras de sa sœur. On voit une escalade dans les comportements de Richard Chase. Et là, on va retrouver notre bonhomme. On est en 1973. Il vient d'avoir 23 ans. Et il a de plus en plus des problèmes et il est de plus en plus préoccupé par sa santé. Et là, on peut dire que en 1973 débute la spirale de Richard Chase. En décembre 73, il se présente à l'hôpital, l'American Hospital de Sacramento. Et là, il dit au médecin de garde qu'on lui a volé son artère pulmonaire et que sa circulation sanguine s'est arrêtée. Essaie d'imaginer la position du docteur. Du coup, monsieur, on peut vous aider. Oui, oui, quelqu'un a volé mon artère pulmonaire. Évidemment, lorsqu'il parle avec le médecin, on constate que le type va pas bien et on décide de l'envoyer dans l'aile psychiatrique où les médecins vont le déclarer officiellement schizophrène paranoïaque.
Okay.
Mais comme je te dis, ce trouble mental ne l'empêchera pas de commettre ses crimes en parfaite connaissance de cause. Richard Chase est déclaré à ce moment-là, lorsqu'il est évalué par les médecins de l'hôpital, il est déclaré dangereux pour lui et pour les autres. Mais sa mère, et ça c'est assez étrange, parce que sa mère, malgré que elle voit, hein, on ne peut pas échapper à cette spirale, on ne peut pas échapper au problème de comportement de Richard Chase, et pourtant, sa mère se présente à l'hôpital et refuse que l'on garde son fils en observation plus de 48 heures. Donc, les médecins lui disent qu'il faut absolument le mettre sur une surveillance clinique pendant quelques jours, sinon quelques semaines. Mais sa mère refuse. Et aux États-Unis, sans l'autorisation des parents, on ne peut pas garder quelqu'un contre son gré dans un hôpital. Donc, éventuellement, okay. Richard Chase est remis en liberté. Les mois passent. Mais son état de santé s'améliore pas. Il fait des séjours chez lui, emménage à nouveau avec des amis, mais ses amis voient que ses comportements sont tellement erratiques qu'ils lui demandent de partir. Ouais. Chase refuse.
À un moment donné, c'est un ami, un coloc, c'est pas un parent, là.
C'est ça. Et éventuellement, même lorsqu'il emménage avec des amis, ce sont ses amis qui décident de quitter l'appartement. Donc, il se retrouve seul parce qu'il n'arrive plus à trouver des colocs. En 1976, il déclare à ses amis et à ses parents qu'il est persuadé qu'il est la réincarnation d'un des frères Younger. Les frères Younger, il faut savoir que ce sont des hors-la-loi américains durant la grande période de la conquête de l'Ouest qui ont notamment fait équipe, par exemple, avec des desperados comme Jesse James. Sa santé mentale, comme je te le dis, ne s'améliore pas. Il croit que sa mère veut le contrôler ou encore qu'elle l'empoisonne. Et il croit également que ses os pousse à travers son cuir chevelu. Fait qu'il va se raser le crâne pour pouvoir surveiller le développement de ses excroissances osseuses. Donc, il commence à être un personnage de plus en plus curieux, de plus en plus troublé. Ses parents, qui se sont réconciliés, ne veulent plus voir... Bon, parce que Richard Chase fait, comme je l'ai mentionné, des allers-retours, elle aménage avec des amis, bon, elle revient à la maison. Là, éventuellement, ses parents ne peuvent plus le garder à la maison. On est à ce moment-là en 1975-1976. Ses comportements sont beaucoup trop erratiques. Et ici, c'est quand même curieux, parce que sa mère sait qu'il a été diagnostiqué pour une schizophrénie paranoïaque. Elle sait que les médecins ont voulu l'institutionnaliser ou à tout le moins le mettre sous surveillance clinique pendant un certain temps. Elle a refusé. Et là, elle continue de voir l'état psychologique, psychiatrique de son fils qui se détériore et elle refuse de faire quoi que ce soit. Au lieu de cela, ils vont... Je connais l'expression « se donner la corde pour se pendre », c'est un peu ce qu'ils vont faire. Ils vont dire à Richard « on ne veut plus t'avoir à la maison », ce qui était quand même un minimum de surveillance. Quand il est à la maison, papa et maman pouvaient voir un peu comment il se comportait. Mais là, ses parents ne peuvent plus l'accepter à la maison et ils décident de lui louer un appartement. On dit « tu t'en vas, on te loue ton appartement, t'as pas à te préoccuper de ça, c'est parfait ». Et voilà que le 26 avril 1976, son père lui rend visite. Ça fait déjà quelques semaines que Richard a emménagé dans son nouvel appartement. Et là, il voit que l'appartement est un véritable... C'est un dépotoir. Il voit bien que son fils est en sueur, qu'il ne va pas bien. Il décide de l'amener à l'hôpital. Lorsque le médecin de garde commence à l'ausculter, bon, il voit que Richard ne va pas bien. Il lui pose des questions. Est-ce que tu as mangé quelque chose? Est-ce que tu as consommé quelque chose? Richard commence par dire qu'il a mangé visiblement un lapin qui avait été empoisonné à l'acide. Et là, ça paraît, bon, OK, un lapin qui est empoisonné à l'acide. Finalement, on voit aussi qu'il y a des problèmes de comportement. Au-delà de ces problèmes physiques, il y a des problèmes de comportement. On décide, avec l'autorisation de son père, quand même de le placer dans l'aile psychiatrique au moins pour 48 heures.
Ouais, là, ils ont compris que c'était peut-être nécessaire. Ouais.
Et pendant qu'on est, on est à l'ausculter, à essayer de trouver ses troubles, son trouble physique, pourquoi est-ce qu'il ne va pas bien, on l'auscule. Et là, il avoue qu'il n'a peut-être pas mangé le lapin empoisonné à l'acide. Il dit qu'il est persuadé que son sang et son corps est en train de pourrir de l'intérieur et que finalement, il s'est injecté le sang du lapin.
Hein?
Écoute, je te raconte ça, puis j'ai peine à croire que le bonhomme ait pu tomber là. Il a pris le sang du lapin puis se l'est injecté. Encore une fois, là, les médecins, bon, parce que là, évidemment, il y a septicémie, un empoisonnement sanguin.
Ouais, c'est
on
ça.
Va, on va le soigner, on va lui faire des transfusions. Encore une fois, malgré que les médecins réitèrent leur crainte de voir Richard Chase ressortir à l'extérieur, ses parents refusent qu'il soit encore gardé plus longtemps à l'hôpital. Ils veulent que leur fils soit relaxé, qu'il ait son congé de l'hôpital. Et pour eux, Richard n'est pas malade. Hein? Pour eux, il y a simplement besoin d'un meilleur encadrement. Donc, finalement, les médecins acceptent de libérer Richard Chase. Et là, bon, il fait des séjours, il fait plusieurs séjours à l'hôpital. Et puis, on voit peu à peu son état qui commence à se détériorer. Toujours obsédé par le sang, toujours obsédé par son état de santé. Et rappelle-toi qu'il a son propre appartement. Il commence pas tellement loin de son appartement. Il y a un éleveur de lapins. Donc, la nuit, il va dans les clapiers, prend des lapins, les ramène chez lui. Il ramasse également des chats, des chiens. Il boit leur sang. Il éventre les animaux. Et là, tenez-vous bien, si vous êtes à la maison en train de souper, là, il éventre les animaux, enlève leurs organes, les met dans un broyeur, un mélangeur, le mixeur. Il les met là-dedans. Il broie ça au point d'en faire une espèce de purée qu'il verse dans des grands verres de Coca-Cola et qu'il boit.
Ouf.
Et tout ça dans l'idée que ça va permettre de mieux contrôler son état de santé qui se détériore. Il est persuadé que ses organes bougent dans son corps et que son estomac est en train de pourrir. Il est obsédé par le sang et il dit qu'il croit tout le moins que seul le sang frais peut réussir à contribuer à améliorer son état. C'est à ce moment-là, là, 1976-1977, qu'il va également se découvrir un intérêt pour les tueurs en série.
Oh non! Ben, un peu plus sur la pile.
Tu sais, tu dis, OK, déjà, on a un monsieur qui va pas bien, là. Et là, bon, et en particulier, il va s'intéresser au Hillside Strangler. C'est un duo d'assassins qui étaient Kenneth Bianchi puis Angelo Bueno qui ont terrorisé la grande région de Los Angeles pendant une dizaine d'années en faisant de très nombreuses victimes, des femmes qu'ils ramenaient chez eux, qu'ils torturaient, violaient avant de les assassiner et de les laisser sur les collines à l'extérieur de Los Angeles, d'où leur surnom des étrangleurs des collines. C'est là qu'on retrouvait les camps. Le 2 décembre 1977, Chase s'achète un pistolet semi-automatique de calibre 22. C'est quand même surprenant, encore une fois, mais bon, hein, les États-Unis, hein, ils se présentent pour acheter une arme, un calibre 22. Le vendeur sort son papier puis lui dit « OK, vous êtes votre nom, Richard Chase. » Avez-vous des problèmes mentaux? Non, pas du tout. Avez-vous déjà été interné dans un hôpital psychiatrique? Non, pas du tout. Parfait, merci. Signez ici. Voici votre pistolet.
Aussi simple que ça.
C'est aussi simple que ça. Tu te dis, bon, écoute, c'est un peu du grand, grand n'importe quoi. Le 27 décembre 1977, Chase se met à rouler dans les rues de Sacramento. Il en a un peu assez des lapins, des chiens, des chats. Il doit passer à une étape autre. Quelques mois plus tôt aussi, il a été arrêté par la police de la Californie près de Death Valley parce qu'il a tué une vache. En fait, on a retrouvé sa voiture et dans la voiture, une espèce de voiture avec un espace derrière, avec le rayon arrière, là, ce qu'on appelle à l'époque une station wagon, là. On avait trouvé les gardes forestiers, les gardes du parc avaient découvert la voiture de Chase. Lui n'était pas là, mais à l'arrière de la voiture, ils ont trouvé un seau qui visiblement avait été rempli de sang. Et là, évidemment, on s'est posé des questions. Puis il y avait aussi une petite boîte dans laquelle contenait un organe qui avait l'air un peu d'être un foie. Alors, tu comprends que les policiers ont été alertés, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et là, en faisant le tour du parc, ils ont surpris complètement nu Richard Chase, recouvert de sang. Alors, ils l'ont arrêté. Et en discutant avec lui, il a expliqué que le sang qui était sur lui, comme le foie qui était dans sa voiture, était celui d'une vache. Alors, comme c'est une vérification faite, c'était la vérité, on l'a relaxé sans qu'il y ait d'accusation portée contre lui.
Ah, parce que c'était pas grave, pour petite vache.
Non, c'est ça. Bon, il y a une vache. Bon. Fait que là, on a déjà un individu qui est très troublé. Il y a ces espèces de croyances un peu, oui, fantasmes autour du sang en particulier. Il consomme des organes d'animaux broyés. Et là, visiblement, quand arrive décembre 1977, Richard Chase a décidé de passer à un échelon supérieur. Le sang des animaux, le sang des organes d'animaux, ça suffit, ça n'améliore pas son état de santé. Il doit y avoir une autre solution.
Je te coupe secondes, Christian. Est-ce que dans ses témoignages par la suite, on a appris que c'était son ultime alimentation?
Que de la viande crue, que des organes et de la viande crue.
Broyé. OK.
Alors là, on est le 27 décembre, il vient de s'acheter un revolver de calibre 22, il roule dans les rues de Sacramento avec sa voiture. Il n'est pas encore un tueur, mais l'idée lui traverse l'esprit. Hein? Peut-être que le sang humain, peut-être que les organes humains lui permettraient de guérir son état de santé précaire. Alors, à un moment donné, en circulant, il s'arrête devant une maison où il voit à travers la fenêtre une femme qui est visiblement en train de faire la vaisselle, un truc comme ça. Elle s'active au comptoir et elle est devant la fenêtre. Chase braque son arme et tire un coup. La balle passe à travers la fenêtre et la balle passe littéralement dans les cheveux de la femme, mais heureusement sans la blesser. C'était un millimètre de différence dans la trajectoire et la balle l'aurait frappé en pleine tête. Donc la balle traverse la vitre, passe dans les cheveux de la femme, va se loger dans le mur derrière elle. Le temps qu'elle lève les yeux, elle voit une voiture qui s'enfuit en trombe. Elle appelle la police. Les policiers sur place vont récupérer la balle. Ils vont constater que c'est une balle de calibre 22. Mais ce qu'ils croient, au départ, on est au tout début. On est ici dans l'antichambre de ce qui va devenir les crimes de Richard Chase. Donc, les policiers pensent d'abord qu'il s'agit d'un groupe de jeunes qui ont une arme à feu puis se sont amusés comme ça de manière excessivement dangereuse à tirer à gauche et à droite. Une balle perdue, voilà. Comme on en voit tant à Montréal, malheureusement, ces temps-ci. Donc, c'est une vrai. Balle perdue qui passe par la fenêtre à travers les cheveux de la dame, mais heureusement, sans faire de victime. Et là, bon, Richard Chase a pris la fuite. Mais deux jours plus tard, il refait exactement le même scénario. Il circule dans les rues de Sacramento et là, il voit, il est visiblement à la recherche d'une victime potentielle. Il voit un homme, lorsqu'il arrive près d'une maison, il voit un couple qui est en train de sortir leurs provisions de leur voiture. Ils ont été faire l'épicerie, la femme est sur le palier de la maison, lui, l'homme, fait l'aller-retour de la voiture avec les sacs d'épicerie dans les mains, puis il aide sa compagne à entrer l'épicerie à la maison. Et alors qu'il fait dos à Chase, Chase Brax ressort son pistolet calibre 22 et tire deux fois en direction de l'homme en question. On va apprendre plus tard qu'il s'appelle Ambrose Griffin. C'est un homme dans la cinquantaine. Il est atteint à deux reprises par les balles de Chase, dont l'une l'atteint mortellement là, dans le dos, mais à la hauteur du cœur, traverse des artères importantes. C'est l'hémorragie interne. Son épouse, au début, elle le voit tomber. Elle n'entend pas la pétarade, si je puis dire, du pistolet, ne remarque pas non plus Chase. Elle voit simplement son mari s'écrouler avec le... Évidemment, il laisse échapper un cri. Il s'écroule avec le sac d'épicerie entre les mains. Elle, qui est sur le palier de la maison, elle croit d'abord que son mari est victime d'une crise cardiaque. Elle part en courant, se précipite aux côtés de lui, et ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle constate qu'il y a du sang qui coule dans son dos, donc qu'il a été atteint par les projectiles. L'homme est transféré à l'hôpital où, malheureusement, constate son décès. Et encore une fois, les policiers appelés sur place vont constater que la balle responsable de la mort de Ambrose Griffin, c'est une balle qui a été tirée par un pistolet de calibre 22. Là, Richard Chase a fait une première victime, mais il n'est pas satisfait de ça. Il n'a pas tiré un profit de ça. Et là, je le dis, on arrive dans le très, très hardcore.
OK.
On est le 23 janvier 1978. On est en fin de matinée. Richard Chase enfile des gants de caoutchouc et là, il s'introduit dans la résidence d'une certaine Teresa Willin. Et c'est une jeune femme de 22 ans. Elle est enceinte de 3 mois. Elle est seule à la maison.
Oh non!
Et tu comprends que elle arrive comme dans la cuisine et elle se retrouve nez à nez devant Richard Chase. Chase immédiatement pointe son arme vers elle. Elle tente d'esquiver le coup. La première balle lui traverse la main et se loge du côté gauche de son crâne. Chase tire une deuxième balle. Cette fois-là, elle se loge dans le cou de Teresa Mullin qui s'effondre. Chase s'approche d'elle et lui tire une balle du côté gauche de la tête pour être bien sûr qu'elle est morte. Mais malheureusement, ce n'est pas encore fini. Il traîne le corps jusque dans la chambre principale et avec un couteau qu'il a trouvé dans la cuisine. Il n'a même pas pris la peine d'amener une arme. Il va dans la cuisine, trouve un grand couteau de boucherie, il revient dans la chambre. Il ouvre l'abdomen de sa victime, de la poitrine jusqu'au nombril. Il la poignarde dans le cœur, le foie, la rate. Il lui découpe les mamelons et sort les intestins. Il se rend ensuite dans la cuisine. Il récupère dans la poubelle un pot de yaourt. Il le ramène dans la chambre, le remplit du sang de sa victime, puis il le boit, il le remplit 2 ou 3 fois et il le boit directement sur place. Ensuite, pour en finir, il sort à l'extérieur, il est entré par la porte arrière de la maison, il a remarqué sur, et le petit détail, mais quand même assez sordide, en entrant dans la maison, il a vu à l'extérieur qu'il y avait des excréments de chien. Donc, il retourne à l'extérieur, ramasse les excréments de chien, rentre dans la maison et les met dans la bouche de sa victime. Et là, il quitte les lieux. Mais avant de quitter les lieux, il faut quand même mentionner qu'il est retourné à la cuisine. Il a pris le temps de laver correctement le couteau qu'il a replacé dans une espèce de bloc à couteau qui était sur le comptoir. Donc, il reprend le bloc, il remet le couteau dans le bloc, se lave les mains, retire ses gants de caoutchouc et quitte les lieux comme si de rien n'était. Donc, il vient de faire une première victime directement. Il l'a abattu avec son arme à feu, mais ensuite de ça, il a littéralement dépecé sa victime. Et il y a eu aussi, tu auras bien compris que dans une action comme celle-là, il y a aussi eu des attouchements, des actions de nécrophilie, mais on ne sait pas jusqu'à quel point. Mais visiblement, Chase s'est adonné à des actions de nécrophilie.
Je suis soulagée. Je vais t'expliquer pourquoi. Tu as parlé d'une femme enceinte et j'ai eu peur littéralement qu'il se décide à manger le fœtus.
Non, ça, il n'a pas fait ça.
Je suis soulagée. Je m'attendais au pire. Là.
Il va le faire avec la prochaine victime.
Oh non! Oh non, Christian!
Oui! Oh. Donc, on est le 27 janvier. Donc là, Chase a déjà à son actif 2 victimes. Hein, Teresa Willin et Ambrose Griffin, qui l'a abattu d'une balle dans le dos. Donc, le 27 janvier, il est 10 heures. Il reprend sa voiture. Il la stationne. Hein, sa voiture, comme je t'ai dit, c'est une espèce de station wagon. Là, pour les gens qui connaissent les voitures, c'est une Ford Rancher. Chero Wagon de 1966. Il la stationne dans un centre d'achat et là se rend trois maisons plus loin. C'est une maison qui est occupée par une certaine Evelyn Myrott. Et là, il entre dans la maison. La porte est déverrouillée. Il va dire d'ailleurs à son procès que pour lui, une porte déverrouillée, c'était comme une invitation. Si la porte avait été verrouillée, ben, ça aurait été autre chose. Donc, Chase rentre dans la maison, se retrouve nez à nez avec cette jeune femme qui a 36 ans. Il sort son pistolet et il la bat d'une balle à la tête. Mais Evelyn n'est pas seule à la maison. Donc, dès qu'il y a le coup, la détonation, il entend, dans une chambre, il entend un enfant qui se met à pleurer. Donc, il se rend dans la chambre en question et là, il voit dans un berceau un petit garçon de 22 mois, qui est le neveu d'Evelyn Myrott. Elle en a la garde à ce jour-là. Et le petit garçon est dans son berceau. Donc, Chase s'approche du berceau, prend son arme à feu, la colle littéralement sur la tête de l'enfant et il tire un coup de feu. La tête littéralement explose. Il retourne ensuite. Là, on est vraiment dans le sordide. Là, Richard Chase a clairement perdu les pédales. Il retourne dans la cuisine où gît le corps d'Evelyn. Il la traîne dans la chambre à coucher. Il l'étend sur le lit, la déshabille. Il enfile ses gants de caoutchouc, hein, parce qu'il y a comme une espèce de manteau qui ressemble à une parka rouge. Cette idée de la parka rouge va d'ailleurs lui nuire, parce que bon, quelqu'un qui a une parka rouge qui se promène sur le trottoir, il y en a pas 100 millions, là.
C'est ça.
Donc, il a avec lui des gants en caoutchouc, les mêmes gants de caoutchouc qu'il a utilisés dans le cas du meurtre de Teresa Willen. Donc, il sort ses gants de caoutchouc, fait le tour de la maison et revient dans la chambre avec deux couteaux de boucherie, une tasse et une paille en plastique. Il mutile Evelyn Myrott, comme il l'a mutilé un peu cinq jours plus tôt Teresa Mullin. Il sodomise le cadavre. Cette fois, on n'a aucun doute qu'il a sodomisé le cadavre. Il la poignarde ensuite dans le rectum à plusieurs reprises.
Ben voyons.
On ne sait pas trop la motivation. Mais tu sais, c'est dur de trouver une motivation à un individu qui a complètement perdu les pédales. Donc, il la poignarde dans le rectum, récupère le sang de sa victime et la boit dans cette espèce de tasse avec une paille qu'il a récupérée dans la cuisine. Et là, Richard Chase va comme doubler son crime, si je peux dire, parce qu'alors qu'il est en train de faire ça, crois-le ou non, il entend la porte d'entrée qui s'ouvre et se referme. Donc là, il est dérangé un peu dans son fantasme et les deux personnes qui viennent d'arriver à la maison, il s'agit de Daniel Meredith, un homme de 52 ans qui n'est pas l'ami de cœur d'Evelyn, mais un bon ami de la famille. Et ce jour-là, elle lui avait confié son fils Jason de 6 ans pour qu'il aille au magasin lui acheter des chaussures. Donc, Meredith revient, l'homme de 52 ans, il revient avec le fils d'Evelyn.
Il y a trop de monde dans la maison.
C'est ça. Donc, tu comprends qu'à l'étage, on a déjà Evelyn qui est littéralement éventrée. Il y a le petit garçon là, David Ferreira qui a eu la tête explosée. Donc, on a déjà deux victimes dans la maison, dont Chase redescend au premier. Et là, il surprend dans le salon Meredith et le petit garçon de 6 ans qui la bat tour à tour avec son pistolet en lui relogeant des balles dans la tête. Cela étant fait, il retourne dans la chambre à coucher. Écoute, c'est épouvantable. Il retourne dans la chambre à coucher et là, il porte son attention sur le petit garçon, hein, le petit garçon de 22 mois. Donc là, il prend le corps, c'est le petit David Ferreira, il prend le corps, l'amène dans la salle de bain, il fait couler de l'eau dans la baignoire, il place sa victime et là, avec un couteau, il lui perce un trou dans le crâne. Déjà que la balle, il a pratiquement fait exploser le crâne. Avec un couteau, il va chercher des morceaux de cervelle qu'il mange directement sur place.
Oh my God!
Et à ce moment-là, pauvre lui, il est dérangé une deuxième fois. Ça cogne à la porte et en fait, c'est une voisine qui avait dit à Evelyn, je vais passer dans la journée te confier ma fillette pour qu'elle puisse passer une partie de l'après-midi à jouer avec ton fils. Alors, disons que deux fois se faire déranger, c'est un peu trop pour Richard Chase.
Ça doit augmenter son taux d'agressivité aussi, hein? Ça déroge du plan.
Probablement. Fait que là, il décide de quitter les lieux, mais il amène un trophée avec lui. Il amène le corps du petit David Ferreira. Donc, il prend l'enfant, le met sous sa parka rouge, quitte la maison. Avant de sortir de la maison, il prend les clés de M. Meredith et en sortant dans la cour, parce que faut que tu te rappelles qu'il a laissé, lui, sa voiture trois rues plus loin au centre d'achat. Donc, il est à pied.
Ouais.
Donc, il peut pas se balader comme ça avec le corps de l'enfant caché sous sa parka. Donc, il prend les voitures de Meredith, de Daniel Meredith, sort à l'extérieur, monte dans sa voiture qui est stationnée dans l'entrée de la maison, et puis là, il quitte, s'en va chez lui. Rappelle-toi qu'il a le corps de l'enfant avec lui, là. S'en va chez lui, rentre à la maison, met le corps de l'enfant en grande partie déjà mutilé, il le place dans le lavabo de la cuisine, retourne ensuite à pied chercher sa voiture et la ramène chez lui. Là, une fois qu'il est de retour chez lui, il va mutiler l'enfant, il va le décapiter, va prendre son sang, ses organes, boire son sang et se livrer à tous les fantasmes que tu peux imaginer et dont je vais te passer des détails.
Ouais, Colin.
Pendant ce temps-là, évidemment, les corps ont été retrouvés dans une autre voisine qui était venue pour rencontrer Evelyn en frappant à la porte. Il n'y a pas de réponse. Elle regarde par la fenêtre et voit un homme étendu un peu dans le corridor qui mène vers la cuisine. Il s'agit de Daniel Meredith. Donc, elle appelle la police. Les policiers trouvent malheureusement la scène épouvantable. Donc, Daniel Meredith, Evelyn, littéralement éventré sur son lit, le petit Jason, 6 ans, mort d'une balle dans la tête, mais il voit aussi qu'il y a un berceau qui est maculé de sang. Et les voisins lui disent « Ah oui, mais elle avait aussi la garde de son petit-neveu de 22 mois. » Et le petit-neveu de 22 mois, David Ferreira, on n'en trouve pas trace nulle part. Alors on se dit qu'il a probablement été amené par l'agresseur et on se croise les doigts pour que l'enfant soit encore en vie. Mmh. Malheureusement, l'histoire va nous apprendre, le procès va nous apprendre qu'à ce moment-là, il est déjà mort depuis plusieurs heures, qu'il a été assassiné en même temps que sa tante Evelyn. Au même moment, là, les policiers décident de faire une enquête de quartier, d'aller frapper à toutes les portes si des gens ont vu quelque chose.
Ou entendu, moi, c'est ça la question. Puis Bruno la pose par texto. La voisine n'a rien vu, puis même rien entendu, des coups de feu à répétition.
Non, rien vu, rien entendu.
Okay.
Et pendant que les policiers font une espèce d'enquête de voisinage, il faut se rappeler que là, le premier meurtre, le meurtre de Teresa Mullin remonte à quelques jours quand même.
Ouais,
et au moment où les policiers commençaient à enquêter sur le meurtre de Teresa Mullin, il y a des gens qui ont dit « C'est curieux parce qu'on a vu un drôle de bonhomme dans le quartier marcher sur le trottoir à peu près à l'heure où la femme aurait été assassinée. Un individu qu'on n'avait jamais vu dans le quartier qui semblait un peu louche. » Et ils le décrivent. Hein, il mesure à peu près 6 pieds, il est très grand, très élancé. Une barbe de plusieurs jours, les cheveux longs un peu en broussailles. Et surtout, il porte un parka rouge d'hiver. Bon, donc là, on a déjà une bonne description. Alors, lorsque les policiers, on est quelques jours plus tard, lorsqu'arrive cette série de meurtres, ces 4 meurtres chez Evelyn, tu comprends que les policiers commencent à faire leur enquête de quartier, cognent à toutes les portes. Pendant ce temps-là, l'image de l'homme mystérieux à la parka rouge, dont la police a déjà un portrait robot depuis quelques jours, a commencé à être distribué dans Sacramento. Mmh. Les policiers ont déjà établi que ces différents crimes-là ont tous été commis avec une arme à feu de calibre 22. Probablement, si l'homme à la parka rouge est l'agresseur de Teresa Mullin, il a bien des chances d'être aussi l'agresseur de Evelyn, tu comprends? Donc, on se dit, on va quand même aller regarder ça de plus proche. Donc, à ce moment-là, les policiers reçoivent un appel et on lui dit vous êtes en train d'enquêter sur le meurtre d'Evelyn Myrant. J'ai vu le portrait robot qui circule depuis quelques jours de l'homme à la parka rouge. Je crois le reconnaître. Et ce type avec lequel j'ai été à l'école, hein, c'est une jeune femme qui appelle la police pour dire ça, dit j'ai été à l'école avec lui au secondaire et il me fait penser à un individu un peu bizarre que je connais qui s'appelle Richard Chase. Donc là, les policiers font une enquête et découvrent que le Richard Chase en question a un dossier de police. Hein. Il faut se rappeler qu'il a été arrêté un an plus tôt, nu, couvert de sang, dans un parc fédéral pour avoir abattu de vaches. Donc on a sa photo et on se dit, ça c'est... Et là, immédiatement, avec la photo du service de police, on reconnaît le portrait robot. On se dit, c'est notre homme. Les policiers se rendent immédiatement chez Richard Chase. Ils ont bon espoir de retrouver l'enfant toujours vivant, mais malheureusement, on arrive là, on frappe à la porte On est le 28 janvier à ce moment-là, on cogne à la porte, il n'y a pas de réponse. Les policiers entendent quelqu'un derrière la porte. On sait qu'il y a quelqu'un dans l'appartement. Les policiers pourraient dire à ce moment-là, police, on a un mandat, mais un des détectives dit non, on va frapper à la porte, on dira pas qu'on a un mandat, on va dire qu'on fait une enquête de quartier, on va laisser notre carte, mettre une note, comme si on va repasser ou appelez-nous ou un truc comme ça. C'est pour ne pas éveiller de soupçons. Donc les policiers frappent, laissent leur carte d'affaires passent leur carte d'affaires sous la porte et retournent dans leur auto, dans leur voiture, qui est une voiture banalisée. Et là, ils attendent. Et ils n'ont pas à attendre très longtemps. Quelques minutes après, ils voient un homme derrière la maison en courant qui tient une boîte dans ses mains qui visiblement tente de se sauver. Les policiers sortent, se lancent à sa poursuite, lui intiment l'ordre de s'arrêter. L'homme en question a une boîte qu'il lance derrière lui en espérant que personne va le voir et là, il se couche à terre. Mais les policiers, on l'arrête. Il s'agit bel et bien de Richard Chase. Et les policiers, en fouillant la boîte en question, ils vont découvrir là-dedans des tissus ensanglantés, des trucs, des morceaux d'organes qu'il a prélevés visiblement sur l'enfant, tout ça.
Des
trophées de chasse. On n'ira pas plus loin dans le sordide, là, okay. mais notamment aussi le portefeuille de David Meredith, donc qui prouve que c'est bel et bien lui l'assassin. Là. Donc on trouve le portefeuille de Meredith, ses cartes de crédit, son permis de conduire, qu'il a pris en même temps qu'il a pris les clés de sa voiture. Donc, Chase est arrêté. Il ne va à peu près rien dire durant l'interrogatoire. Les policiers vont faire ça, mais son appartement est un dépotoir. Et les policiers, en faisant le tour de la maison, vont découvrir dans son réfrigérateur, dans son congélateur, vont découvrir des organes. Certains sont des organes d'animaux, d'autres des organes, visiblement, de l'enfant. Le corps de l'enfant, lui, se retrouvait seulement quelques mois plus tard. Il a été mis dans une boîte et jeté derrière dans un champ derrière une église locale. Et c'est un des employés de l'église qui, quelques mois après, par l'odeur, parce que rappelle-toi que ces crimes-là ont lieu en janvier, même si on est à Sacramento, en Californie, il fait quand même froid. Il fait pas moins 25, mais il fait quand même froid. Mais quand va arriver les chaleurs de l'été, le mois de juin, juillet, un des employés de l'église va sentir une odeur et là va trouver derrière l'église une boîte et dans la boîte les restes presque squelettiques du jeune David Ferreira, qui est réduit à l'état de squelette, ce petit garçon de 22 mois, qui a été décapité. Mais dans l'appartement de Chase, on va retrouver ses organes et des contenants dans lesquels il a conservé également le sang du gamin. Évidemment, il est arrêté. Il est accusé formellement de 6 meurtres au premier degré. L'avocat de Chase va faire valoir que son client souffre de maladie mentale.
Donc, non, oui.
Donc, il va dire, il est inapte à subir son procès, hein, parce que il a, pour le justifier, les diverses évaluations psychiatriques qui ont été faites de Richard Chase, qui montrent bien qu'il souffre de maladie mentale. Donc, on lui dit, il était irresponsable. Mais le procureur, il faut toujours se rappeler que dans un procès comme celui-là, l'idée de la maladie mentale ne peut être retenue que si la maladie altère le jugement de l'assassin.
Ouais, or,
dans le cas de Chase, tu as tout à fait raison, on voit bien que le fait qu'il mettait des gants de caoutchouc quand il rentrait chez les victimes, le fait que quand les policiers l'ont interpellé, il a essayé de se débarrasser des preuves, le fait qu'il ait jeté le corps de l'enfant loin du lieu de sa résidence, tous ces éléments-là, quand les policiers sont allés frapper chez lui, il n'a pas ouvert la porte, ça montre bien qu'il était conscient qu'il avait commis des actes illégaux et qu'il était recherché pour ça. Donc, tout son comportement, même s'il ne pouvait pas résister à ses pulsions de boire du sang, de manger des organes, ses pulsions, il était quand même conscient que ces pulsions-là l'amenaient à commettre des gestes qui étaient illégaux et criminels. Richard Chase va être condamné à la chambre à gaz. Et là, on est On est en 1979. Le juge le condamne à mourir dans la chambre à gaz, ce qui aurait pu être très long, hein, parce qu'il faut savoir aux États-Unis que dès qu'il y a une condamnation à mort, il y a immédiatement un appel et certains criminels, et on pense par exemple à Richard Ramirez, dont on a parlé il y a quelques semaines, le tueur de la nuit, le Night Stalker.
Ouais.
Ben, faut se rappeler que Richard Ramirez a passé pratiquement 30 ans derrière les barreaux et il est mort d'un cancer du foie et non pas de la chaise électrique à laquelle on l'avait condamné. Donc, c'est un peu la même chose avec Richard Chase. Il est condamné à mort en 79. Et là, on se dit, bon, ça, on va aller en appel et probablement que Richard Chase a encore des décennies devant lui. Mais en 1980, quelques mois après sa condamnation, Richard Chase, on avait, bon, enfin, le fait qu'il était derrière les barreaux, on a pu le soumettre à un traitement psychiatrique et psychologique. Les médecins lui donnaient des pilules qui étaient des antidépresseurs et des pilules pour permettre de mieux contrôler sa schizophrénie et ses envies de boire du sang, parce que même quand il était, les quelques fois où il a passé quelques jours à l'hôpital, on l'a surpris à tuer des oiseaux, à lui arracher la tête pour boire leur sang. Dans la prison où il est le vampire de Sacramento, les gens le surnomment même Dracula, donc il y a toutes sortes de noms qu'on lui lance. Il est incapable de contrôler, hein. Il hurle la nuit, prétend que son corps est en train de pourrir. Donc, il y a une espèce de discours qui est tout à fait fantaisiste. Et puis donc, à partir du moment où il sait qu'il ne pourra pas échapper à la prison et qu'il en a pour de longues années, voire des décennies avant d'avoir son rendez-vous avec la chambre à gaz, Richard Chase commence à conserver toutes les pilules que les médecins lui donnent.
Ah.
Il fait semblant de les prendre, mais il ne les prend pas. Et après quelques semaines, on est le 26 décembre 1980. C'est assez étrange parce qu'on est pratiquement 3 ans, jour pour jour, après son premier crime. Richard Chase prend toutes les pilules qu'il a gardées depuis plusieurs semaines, les prend dans un seul cocktail et il est retrouvé le lendemain matin, mort.
Qu'est-ce qu'on a connu de lui en tant qu'enfant? Parce que toi, en plus, tu as mentionné au début de l'émission, Christian, que tu as vu les images des crimes.
Ouais.
C'est quoi son background pour être aussi violent sexuellement avec ses victimes?
On n'en a pas. C'est ça qui est troublant avec Richard Chase. On a l'impression, on n'arrive pas à trouver une cause, si ce n'est ses troubles érectiles lorsqu'il était adolescent. Hein, il s'est confié à des amis qui n'arrivaient pas à conclure avec les jeunes femmes qu'il rencontrait. Puis il était plutôt assez populaire, hein, parce qu'à l'époque, quand on regarde des photos de Richard Chase, on est dans les années 70, à la mode des années 70, les coupes de cheveux des années 70, il est plutôt beau garçon à ce moment-là.
Ben, je confirme avant la suite, Christian, que c'était un joueur de football qui devait pogner, là.
Ouais, c'est
ça. Il y avait donc, ce petit look-là.
Ouais, il y avait un petit look des années 70, assez populaire. Donc, il n'y avait pas trop de difficultés à rencontrer des jeunes femmes, mais n'arrivait pas à conclure. C'est le seul élément qui permet de justifier cette espèce de haine soudaine et cette violence qu'il va développer après lorsqu'il prend les femmes, les éventre. C'est comme l'idée de se venger de leur corps. Ça reste très difficile. Et Richard Chase est un individu très particulier parce qu'il est un des rares cas où le temps qu'il est, à partir du moment où il est en prison, il est suivi par des psychologues, des psychiatres. Il va quand même être en prison pendant plusieurs mois. Et Richard Chase va se révéler être un des très rares cas de ce qu'on appelle du vampirisme clinique ou le syndrome de Renfield. Hein, Renfield, le syndrome de Renfield, ça vient de R.M. Renfield, qui est un personnage dans le roman Dracula de Bram Stoker en 1897. Et Renfield était une espèce d'apôtre de Dracula. Il fournissait des victimes à Dracula, tentait de séduire, de forcer Mina à être séduite par le comte. Bon, c'est un personnage qui est gardé également dans un institut psychiatrique.
Okay.
Donc, en psychiatrie, le syndrome de Renfield ou le vampirisme clinique dépeint un trouble du comportement où les individus ont un besoin pathologique, pas physique, mais psychologique et pathologique, de consommer du sang. Donc, dans certains cas, bon, souvent c'est lié, dans la plupart des cas, heureusement, c'est lié à des troubles mentaux, mais pas toujours. Hein. Moi, pour avoir assisté à des soirées gothiques à Londres, hein, quand j'ai fait mon reportage sur les tueurs de l'occulte, adultes. Il y a un groupe de tueurs qui fréquentaient des bars gothiques à Londres. Donc, je me suis immergé dans ces bars gothiques. On a tourné des images où des jeunes qui s'identifient à la culture des vampires. Il y a une espèce d'idée romanesque et romantique autour du vampire. Donc, ces jeunes-là se réunissent en boîte. Ils font de l'auto-vampirisme. Donc, avec des lames, ils vont se couper sur les bras et sucer leur propre sang. Mmh. Ou bien, c'est de l'auto-vampirisme, mais aussi... Et ça, c'est encore plus troublant quand on sait toutes les épidémies, d'hépatite C, le problème du sida. Certains acceptent de se couper et de laisser d'autres personnes boire leur sang. Donc, quand on sait toutes les maladies transmissibles par le sang, dont notamment le sida, tu te dis, c'est quand même troublant que des gens fassent ça. Et ce sont des gens qui ne souffrent pas, techniquement parlant, ils ne souffrent pas de maladie mentale. C'est une espèce de kick, une espèce de plaisir qu'ils ont entre eux de se réunir, de jouer à fond ce rôle du vampire, le côté un peu romanesque et gothique autour de ça. Donc ici, on n'est pas dans l'univers de la maladie mentale, mais dans le cas de Richard Chase, et il n'est pas le seul cas clinique connu comme ça, on appelle ça le vampirisme clinique, donc un trouble mental où la personne a le besoin, un besoin absolu de boire du sang et de manger des organes ou de la viande crue pour pouvoir être certain que ça va apporter des bienfaits à son organisme. Richard Chase est peut-être l'un des cas les plus extrêmes que l'on connaît dans le domaine criminel, mais il n'est pas le seul à l'avoir fait. Mais bref, aujourd'hui, Richard Chase est devenu un peu un synonyme de l'horreur. Est très difficile de parler de vampirisme criminel sans qu'au sommet de notre liste, il y ait malheureusement Richard Trenton Chase.
C'est fascinant, Christian. Pour ma part, je vais m'en tenir à manger du tartare. Ce sera là où j'irai de plus loin dans tout ce qui est cru.
Ou le sushi, mais bon, c'est limité à ça, oui.
Effectivement, je nous ai laissé aller pour toute l'heure. 19h55, mon cher, c'était fascinant. Désolé à ceux qui ont peut-être le cœur un peu plus sensible. Quoique, quand on n'a pas vu les images comme toi, je te trouve très bon. T'as l'air désensibilisé à cette violence graphique-là, mais j'adore les jeudis pour ça. On s'en va dans le plus sombre et le plus sordide, incompréhensif de l'humain. Je te remercie pour ça.
Et comme je l'ai expliqué, hein, quand on parle des tueurs en série, c'est un peu ça qui nous fascine. C'est le fait de ne pas être capable de se substituer dans la pensée de l'assassin. On est incapable de comprendre les motivations. Dans le cas de Chase, ce besoin pathologique de boire du sang, de consommer de la viande crue ou des organes pour essayer de requérir ou retrouver une santé qu'il croyait avoir perdue, alors que les médecins, hein, lors de son procès, et lorsqu'il a été incarcéré, les médecins ont clairement établi qu'il est en parfaite santé, Richard Chase, à part de ses troubles mentaux.
Et délirait là-dessus.
Ouais. Avant de se laisser, je viens de dire que si des gens veulent en savoir un peu plus sur Richard Chase, il y a un excellent ouvrage, un petit livre, une monographie de 142 pages qui s'intitule Vampire, The Richard Chase Murders, qui a été publié il y a quelques années, je pense en 2014-2015, par Kevin Sullivan, qui décrit bien les crimes de Richard Chase. Et crois-le ou non, l'histoire de Richard Chase a inspiré un film, c'est pas le premier, un film qui s'appelle Rampage. En français, le titre du film, c'est Le sang du châtiment. C'est un film qui date de 1987 et qui a été réalisé par nul autre que William Friedkin, qui est celui qui a réalisé le film L'Exorciste.
Oh!
Donc, il a tourné ce film, Rampage, le sang du châtiment, que j'ai vu, qui est un excellent film, assez difficile à trouver. Hein. Faut vraiment être un mordu du cinéma pour trouver là, parce que c'est un film qui est... Encore, je pense qu'il existe en DVD, doit être disponible en DVD, mais c'est pas un film que moi, je me rappelle pas l'avoir vu à la télé. J'ai une copie du DVD qui me permet de voir le film. Donc, c'est un film assez qui passe rarement à la télé puis qui est difficile à trouver, mais il existe en français sous le titre « Le sang du châtiment ». C'est tourné en 1987. Et ben, avant qu'on se laisse pour la pause, au moment de se laisser pour la pause, je t'ai envoyé un petit bout de la bande-annonce, donc on pourra le faire entendre aux gens. Film, encore une fois, je le rappelle, tourné par William Friedkin en 1987.
Ça va jouer dans les prochaines secondes. Le temps de te dire, Christian, qu'on se repose jusqu'à lundi soir. Lundi soir étant la fête du travail, on va être en reprise. Ce sera les meilleurs moments déjà depuis le début de la saison. On se retrouve mardi à 19h. Passe un excellent week-end. Et merci encore. C'est un plaisir de travailler avec toi, vraiment.
Merci beaucoup. Donc, bonne soirée et Bon week-end à tous.
Merci aux auditeurs de nous suivre également. Beaucoup de messages de remerciements et de félicitations, Christian. T'as été le maître de cérémonie, puis ça nous fait plaisir que tu sois avec nous.
Ben, ça me fait plaisir. Merci à tous, puis passez du bon temps, puis une bonne fête du travail à tout le monde.
Bye-bye.
Bye-bye.